Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce. Nous te magnifions. Parce qu'il t'a plu de nous rassembler encore dans ta maison ce matin pour nous instruire et pour nous bénir. Merci pour cette occasion. En ce moment où nous allons écouter ta parole, prépare-nous toi-même. Remplis-nous de ton Esprit Saint, afin que ce soit lui qui nous parle. Et fais en sorte que cette parole pénètre profondément en nous et nous transforme à l'image de ton Fils Jésus-Christ qui vient. Écoute-nous, Seigneur, et exauce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons écouter deux textes. Et nous commençons par Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 10. Hébreux 10, 5 à 10. Là, il est écrit: c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, car l'offrande du corps de Jésus-Christ, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Luc 1, 39 à 55. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte: tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit: mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est grand, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé libre et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Amen. Un miracle et un événement inouï et inexplicable du point de vue humain viennent de se produire chez deux femmes de la même famille. Il s'agit pourtant chez l'une comme chez l'autre, tout simplement, de la conception d'un bébé du sexe masculin. Mais là où les choses se compliquent, là où c'est inimaginable, c'est que la première femme était stérile et même déjà ménopausée, tandis que la seconde était une fille vierge et seulement fiancée. Comment cela est-il donc arrivé? Comment les choses se sont passées? C'est Dieu qui a agi, car chez lui, il n'y a rien d'impossible. Il a miraculeusement rendu la première femme féconde. Il a annoncé à Zacharie, son mari, et a permis à la seconde de concevoir sa relation sexuelle. C'est plutôt par la puissance du Saint-Esprit que la conception de la deuxième a eu lieu. Cependant, si Zacharie, le mari de la première femme à qui l'ange a annoncé la conception de sa femme a douté, la seconde femme a accepté de devenir enceinte sans broncher. Pourtant, en Israël, il était interdit pour les jeunes filles de concevoir. La fille ne devait donc avoir d'enfant qu'après le mariage. Ceux qui se permettaient de devenir enceinte hors mariage s'exposaient aux graves conséquences. Sauf si le père de l'enfant acceptait de l'épouser. Sinon, elle ne se marierait probablement pas. Mais lorsque l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle deviendra enceinte sans être mariée, elle ne s'inquiète pas des conséquences fâcheuses liées à cet état. Elle lui demande seulement comment cela va-t-il se faire puisqu'elle est encore vierge. L'ange lui donne alors quelques précisions au sujet de cette conception virginale. Je le cite. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Fin de citation. Après avoir entendu l'ange, Marie se soumet alors humblement à la décision de Dieu. Et elle dit, je suis la servante du Seigneur, qui me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Quelle foi! Elle ne s'imagine pas que même si elle dit qu'elle est devenue enceinte par le Saint-Esprit, on l'assimilera à une folle. Parce que on n'a jamais entendu ça. Lorsque Marie accepte la mission que Dieu lui confie, elle ignore tout de l'avenir. Elle ne sait pas comment sera la suite. Elle sait simplement que Dieu demande un service et selon elle, lorsque Dieu demande un service, la réaction ne peut être que l'obéissance. On ne désobéit pas à Dieu. Luc, l'évangile de Luc que nous venons de lire, à partir du verset 39, commence en ces termes. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Marie vient de recevoir une révélation extraordinaire. Marie est tellement dans la joie, elle est tellement surprise, mais elle tient à rencontrer sa cousine Elisabeth. Elisabeth, qui venait de faire les mêmes expériences qu'elle, même si ce n'était pas dans les mêmes conditions, dans les mêmes circonstances. Marie voulait partager avec Elisabeth ce qu'elle ressent. C'est pourquoi elle entreprend ce voyage en hâte. La rencontre avec Elisabeth sera un moment solennel et inoubliable pour les deux femmes. Les mêmes expériences de la miséricorde de Dieu, la même foi, les mêmes espérances, le même amour unissent leurs âmes dans une communion intime. En réalité, ce qu'elles ressentent, tous les mots que nous utilisons sont faibles et approximatifs pour le dire. Ce sont elles qui étaient les seules capables de le dire, de dire ce qu'elles ressentent. Après ce que l'ange vient de leur dire. Je dirais même qu'il y a des expériences spirituelles que nous ne pouvons pas savoir partager, même avec nos proches. La vie avec Dieu est d'abord une affaire personnelle et intime entre chaque homme de foi et Dieu. Lorsque Marie entre chez sa parente, et salue Elisabeth, l'enfant qui est dans l'utérus d'Elisabeth bouge. Et on peut dire que la réaction de l'enfant qu'Elisabeth porte en son sein et le fait qu'elle soit remplie du Saint-Esprit après la salutation de Marie prouve à Elisabeth que le fils que porte Marie est le Messie attendu par Israël depuis toujours. C'est pour cette raison que peut dire la mère de mon Seigneur, comment est-il comment est-il arrivé que la mère de mon Seigneur vienne chez moi? Ensuite, elle loue Marie qui a cru à la parole de Dieu, à la parole de l'ange. Marie, quant à elle, entonne un chant dans lequel elle loue Dieu pour ce qu'il fera dans le monde à travers elle, malgré sa bassesse, malgré qu'elle ne représente rien dans la société, malgré qu'elle n'est qu'une petite fille sans valeur. Oui, à cause de la mission qu'elle va accomplir, toutes les générations la considéreront comme une bienheureuse. Marie ne chante pas les dons que Dieu lui a accordés dans sa grâce pour s'enorgueillir, mais pour honorer Dieu. Dans cet hymne, Marie loue Dieu pour sa miséricorde qu'il accorde de génération en génération à ceux qui le craignent. Elle magnifie Dieu aussi parce qu'il a déployé sa force. Il a montré sa force pour disperser les arrogants, oppresseurs et pour élever les humbles. Marie relève aussi des vérités qui sont encore visibles même de nos jours. Dieu a rassasié de bien les affamés et il a renvoyé les riches à vide. Ce qu'il avait dit aux ancêtres d'Israël, il le réalise. Jésus n'avait-il pas été promis depuis Abraham? Bien-aimés dans la foi, ce que nous retenons de Marie, c'est que c'est une femme, c'est une humble femme de foi, obéissante et généreuse, tout simplement prête à servir sans poser de questions, même si ce qu'elle ne comprend pas. Elle nous enseigne que pour servir Dieu, il faut tout simplement s'engager. Il faut tout simplement s'engager vers la direction que Dieu montre, même si nous ignorons les tenants et les aboutissants. Même si nous n'avons aucune assurance, il faut simplement obéir. Obéir et obéir. Malgré les obstacles et les persécutions éventuelles. Si nous reconnaissons que Marie était une humble femme de foi, autant nous déplorons le fait que nos frères catholiques ont fait d'elle ce qu'elle n'est pas. Elle est montée au ciel sans mourir. Selon eux. Et un culte lui est voué. Elle est la médiatrice entre les chrétiens et le Sauveur. Pour eux, passer par Marie pour atteindre son fils Jésus, c'est très facile. On lui voue une fête, la fête de l'Assomption. Et il y a même un dogme. Sur elle, l'Immaculée Conception. Pour nous, les réformés, Marie représente l'humanité pécheresse dans laquelle Jésus vient vivre afin de la sauver. Si toutes les générations la diront bienheureuse, c'est tout simplement parce qu'elle est devenue par sa mission la rencontre de l'humanité tout entière avec Dieu. Si Marie est bénie, ce n'est pas à cause de sa pureté morale, mais tout simplement à cause de l'intervention de Dieu qui a mis dans sa bouche la réponse de la foi. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen.